Picasso stuck on a wall in the middle of a hall in Barcelona. France Culture Deezer, merci de nous écouter en cette matinée consacrée à Pablo Picasso jusqu'à midi. Dans 3 minutes, la table ronde sur la question de la pulsion chez le peintre espagnol, mais tout de suite, le regard quotidien de Miquel Barceló. Miquel Barceló, hier vous nous avez parlé d'un autoportrait de Picasso qui date de 1906. Chaque jour jusqu'à la fin de la semaine, vous regardez pour nous un tableau de Picasso. Quel est le tableau que vous avez choisi pour nous aujourd'hui?
Moi, j'ai toujours pensé que parmi mes œuvres d'art préférées du XXe siècle, c'est le collage de papier journal fusant de Picasso. Et on ne devrait pas dire collage parce qu'il ne les a pas collés de tout. Il accrochait ses papiers journaux avec des aiguilles. C'est vrai. Et je pense que c'était les aiguilles de Fernando Olivier qui faisait de la couture, qui utilisait pour... Parce que ça lui permettait de changer de place. Alors ça veut dire que le fusain, c'est une matière qui est comme une aiguille, qui n'est jamais définitive. Vous pouvez effacer et changer de place 10 000 fois. On voit ça souvent chez Matisse avec ses dessins, qui a 10 000 lignes, n'est-ce pas ? Des lignes grises et une de plus, parce qu'il a effacé, recommencé. L'aiguille, c'est pareil, ce bout de journal, on peut le déplacer autant que... Si vous regardez ces collages de Picasso, c'est bien de regarder les petits trous d'aiguille pour voir où a placé son morceau de journal. Et là, c'est un de grands tableaux, qu'ensuite on peut le retrouver plus tard, parce que c'est un joueur de guitare, mais ici, il a mis une vraie guitare... Une vraie guitare, pas une de ces guitares qui est construite avec des cartons et des ficelles. Et de... Non, c'est une vraie guitare. La vraie guitare qui était accrochée dans son atelier, comme le crâne de mort et la bouteille d'anis del mono. Il a accroché la guitare au tableau et le guitariste, il l'a fait en fusain et en papier journal. Et les mains sont en train de tenir la guitare, il joue même en accord. Et ensuite, il a fini la composition pour la petite table devant avec la bouteille, la pipe et la tasse. Et puis ensuite, on voit le tableau de dos, qu'on reconnaît, le tableau cubiste, et on pourrait même probablement l'identifier en parent pour sa dimension et pour les petits détails qu'on voit là. On voit la toile montée par lui-même, ici, un peu grossièrement. On voit la bouteille d'anis del mono, probablement une publicité, qu'on retrouve ensuite. Les bons marchés, on a fait le bon marché. Et puis son expo en Suède. Alors ça, j'aime beaucoup parce que, bon, ça, on revient à ce collage papier journal fusain. Comment dire, le fusain, c'est la matière qui seconde la poussière. C'est pour ça que les peintres, on aime beaucoup le fusain parce que c'est quelque chose qui est, il n'est pas figé. C'est quelque chose qui est en train de se faire. Et c'est ça que Picasso aimait beaucoup. Picasso aimait, il disait qu'il aimerait garder un stade de chaque tableau. C'est-à-dire quand la giornata, c'est-à-dire le fresquiste s'appelle la giornata, non? C'est qu'on fait dans une journée, dans une étape, et recommencer un autre tableau à ce point-là, mais garder le premier tableau comme il était, n'est-ce pas? On voit ça avec les photos qu'a fait Dolamar de Guernica, mais on... Et puis dès le début, Picasso a gardé ce côté pas fini des œuvres, n'est-ce pas? Même dans des œuvres... Disons, le portrait de fiançailles d'Olga Kokolova, qu'on voit les fonds commencer, n'est-ce pas? Et là, c'est l'atelier de l'artiste, c'est le tableau en train de se faire.
Cette grande traversée consacrée à Pablo Picasso se poursuit sur France Culture avec à présent le moment de la table ronde. Et après ces archives, vous avez pu entendre plusieurs des compagnes successives de Picasso parler de lui. Nous approfondissons le rapport du peintre espagnol avec les forces obscures qui nous régissent toutes et toutes. Je veux parler des pulsions. Car on a le sentiment, en étudiant à la fois l'œuvre et la biographie de Picasso, qu'il a agi comme poussé par ces forces qu'il avait en lui et qu'il ne souhaitait pas ou ne pouvait pas contrôler. La pulsion, c'est, nous dit Freud, une poussée constante et motrice qui vise à une satisfaction et qui est le moyen initial de cette satisfaction. À ce titre, la vie de Picasso est tout entière pulsionnelle car il semble mu par une force constante qui le fait agir presque au-delà de sa volonté propre. « La peinture est plus forte que moi », dit Picasso. « Elle me fait faire ce qu'elle veut ». Ainsi, la pulsion est peut-être l'une des clés de la compréhension de son œuvre et également de son rapport aux autres. Et c'est pour parler de toutes ces questions que se trouvent réunies aujourd'hui mes trois invités autour de cette table. D'abord Jean-Jacques Lebel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à la fois artiste, inventeur du happening, on le sait, créateur du festival Polyphonix, et puis vous avez été le commissaire d'une exposition intitulée Picasso érotique qui s'est tenue à Montréal en 2011. Également autour de cette table, Dominique Dupuis-Labbé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne d'art, auteur notamment d'un livre sur Picasso érotique dans la collection Découverte Gallimard et de nombreux autres ouvrages. Et enfin Emmanuel Pierrat, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, avocat, collectionneur de livres érotiques et amateur de Picasso. Merci à tous les trois d'être présents aujourd'hui. Alors je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que selon vous, la pulsion est le moteur principal de la création chez Picasso? Est-ce que c'est cela qui le pousse plus que toute autre chose dans son travail? Je vais commencer par vous, Emmanuel Pierrat, puisque vous êtes à ma droite.
Je pense que ce n'est pas un contresens, effectivement, de dire que la pulsion est un des moteurs de l'œuvre. Je ne sais pas si c'est le moteur unique et central, ça m'étonnerait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la corrélation effectivement que vous avez faite avec les archives entre les femmes, la biographie, l'homme, en quelque sorte, puisque je me suis intéressé notamment dans un livre à la succession
famille, aux
enfants, à la famille, voilà, à la famille de Picasso, et puis par ailleurs, voilà, sa peinture, sa vie, ou son journal intime, en quelque sorte, jeté sur la toile et sur le papier. Et effectivement, on pourrait réduire ça à cette formule, mais je ne suis pas sûr que les spécialistes plus éminents que moi autour de la table vont être d'accord.
Alors allons-y, les spécialistes plus éminents. Jean-Jacques Lebel, vous êtes en train de relire le catalogue de votre exposition alors que l'émission a déjà commencé. Vous n'avez pas bien révisé, j'ai l'impression.
Non, il trouve ça passionnant, il a raison.
Parce que ce sont les images qui font penser et pulsion, oui, certainement, mais pas n'importe laquelle. Disons, pour être clair et en plein centre de votre préoccupation, la pulsion scopique, c'est-à-dire la pulsion du regard, le travail du regard. Comme disait Léonard, qui n'avait pas tort, la pittura è cosa mentale, c'est-à-dire le processus mental du regard, qui ne va pas de soi. Parce que quand Duchamp dit que ce sont les regardeurs qui font la peinture, il faut que les regardeurs travaillent ce regard. C'est de l'intellection.
Mais qu'est-ce que c'est la pulsion du regard ?
C'est la saisie du réel, et notamment des autres êtres humains, et l'expression du désir par le regard, dans le regard. C'est par le regard qu'on appréhende le monde, surtout les artistes. Et ce qui est extraordinaire, c'est que chez Picasso, comme chez beaucoup d'artistes, beaucoup d'êtres humains, pas artistes, il y a plusieurs personnages. Il y a le Picasso extrêmement connu, peut-être un peu trop connu, dont on nous rabâche les oreilles, la grande consommation culturelle, l'hypermarché culturel qui ravit les spéculateurs. On achète à 10, on revend à 30, etc. Enfin, la marchandise, tout ce qui nous fait vomir. Mais derrière tout ça, il y a quelque chose de fondamental qui, encore aujourd'hui, je suppose que Dominique en sera d'accord, encore aujourd'hui, reste quand même assez méconnu. C'est le Picasso d'inspiration érotique. Et c'est là que sa pensée artistique, sa pensée érotique, car il y a une pensée érotique, c'est un des grands ressorts de la pensée humaine, c'est l'érotisme. Souvenez-vous du vers de Parménide, « Eros, toi le premier des dieux, celui qui fait songer ». C'est-à-dire toute expression intelligente de ce qu'on appelle la culture commence par le sentiment érotique, la pulsion érotique.
Et donc, quand
et chez
vous dites
Picasso, du début, c'est-à-dire en disant, quand il a commencé vraiment à dessiner à Barcelone, très jeune, enfin adolescent, en 1902-1903, il a commencé par des dessins d'un érotisme absolument subversif, sublime, jusqu'à la fin. Jusqu'à 1972, c'est-à-dire un an avant sa mort, il y a eu cette constance, cette inspiration bouleversante et bouleversée d'un bout à l'autre de sa vie qu'il n'a très rarement exposé. Mais on pourra discuter pourquoi ça a été si peu exposé.
Dominique Dupuis-Labbé.
La pulsion.
à Jean Lemarié qui venait l'interviewer lorsqu'il a rédigé son grand ouvrage sur
grand
Picasso.
Historien d'art.
Voilà. Picasso avait répondu que l'art, c'était la sexualité. Alors, c'était peut-être aussi une provocation, parce qu'on ne peut pas non plus réduire l'art de Picasso à la sexualité. Il y a aussi beaucoup d'autres choses, même si les éléments, les thèmes peuvent se croiser. Il a également dit « l'art n'est jamais chaste. S'il est chaste, ça n'est pas de l'art ». Là aussi, un de ces aphorismes dont Picasso raffolait. Mais de fait, et il y a la pulsion sexuelle. Ce qu'il veut dire quand l'art est de la sexualité, c'est que l'acte de peindre équivaut à une pulsion également, d'ordre sexuel ou non. Mais dans ces cas-là, on pourrait dire...
Mais pas pour tous les peintres.
Eh bien, elle agite, je crois, pas mal de peintres. En tout cas, ceux qui mettent leur tripes sur la toile, leur moi, leur ego, leurs sentiments, leurs frustrations, leurs désirs, leurs fantasmes. Oui, il y a sans doute un équivalent entre l'acte de peindre, de graver, de dessiner et l'acte sexuel. Mais évidemment, au moment même de la création, c'est forcément une sublimation, puisque l'on sait aussi que Picasso peigne rarement d'après modèle. Donc il y a aussi de l'ordre à la fois de ce que disait Jean-Jacques Lebel de la pulsion scopique, mais qui est effectivement retravaillé par ce que Gauguin appelait le centre mystérieux du cerveau. Et lorsqu'il travaille en dehors de la fréquentation des bordels, eh bien c'est un travail effectivement mental, intellectuel.
Donc là vous rejoignez le critique d'art américain Leo Steinberg qui disait pour Picasso, peindre et faire l'amour c'est la même chose. Et d'ailleurs c'est vrai que quand on sait que Picasso pouvait rester des heures devant sa toile, debout, et qu'on raconte qu'il dansait devant cette toile et qu'il ressentait une espèce de jubilation et une excitation, il y a effectivement quelque chose d'extrêmement physique dans l'acte de peindre.
En même temps, pour rebondir sur ce que disait Dominique Dupuis-Labbé, il peignait sans doute quasiment sans modèle, mais il a passé son temps à mettre en scène l'artiste et le modèle dans ce qu'on pourrait appeler la partie de l'œuvre érotique, en tout cas selon moi.
Oui.
Est-ce que ça rejoint la pulsion scopique, cher à Jean-Jacques Lebel ?
Pas toujours, il y a vraiment des peintres et des modèles qui sont vraiment la situation dans l'atelier, c'est-à-dire cette relation extrêmement particulière, en particulier celui de 1914, où l'on voit une jeune femme avec un Picasso assis la regardant, un Picasso assez surprenant parce qu'il est à moustache et qu'il s'agit vraisemblablement de sa compagne de l'époque, Eva Goel. Et puis il y a effectivement le peintre et le modèle, le peintre lui-même travaillant à un dessin ou à une œuvre érotique et le modèle l'accompagnant.
Il n'a pas besoin d'avoir un modèle, il l'a dans la tête.
Oui.
Il est habité par les modèles qui peuplent sa tête, son mental, son psychisme.
Il y a aussi, Jean-Jacques Lebel, une extrême concentration pour canaliser cette pulsion et pour en faire des œuvres qui sont au fond quand même très construites. Est-ce qu'on peut dire que Guernica est une œuvre pulsionnelle ? Peut-être pas. C'est quand même une œuvre également extrêmement réfléchie.
Je crois que, Dominique, j'abonde dans son sens. Il ne faut pas tout réduire, ni au politique, ni à l'érotique. Ce serait, c'est pas si simple. Picasso, comme tout artiste digne de ce nom, est d'une complexité sans nom et infini. Par contre, si on veut bien examiner de plus près les œuvres d'inspiration érotique, pulsionnelle, celle-ci, on va parler pendant 3 ans, il faut se rendre compte qu'il y a une constante chez Picasso. Je le disais, de son adolescence à la fin de sa vie, je voudrais décrire pour vos auditeurs un dessin qui me paraît absolument fondamental, qui est de 1902. On voit une vulve géante. Assez hirsute d'ailleurs, ouverte. Le clitoris est souligné en rouge. Et la femme, car il y a une femme dans la vulve. Elle est encadrée par la vulve. Et cette femme, on la reconnaît parce que c'est elle, le même visage pour toutes les aquarelles de l'époque des bordels de Barcelone, parce qu'il n'a jamais été à l'université. Son université, c'est le bordel. Il allait tout le temps et il a vécu là, il a appris la vie
et a
dessiné au bordel. N'est-ce pas ? Et c'est pour ça
Vous pensez qu'il dessinait, sur place ? Ça gênait pas les
gens. Il l'a dit à propos de la suite des 156 gravures en 71, en disant qu'il n'y avait pas de femmes nues. Pour un jeune artiste qui n'a pas les moyens de se payer des modèles, il faut aller au bordel.
C'était courant
ou
c'est très picassien, mais
d'autres y sont allés. Il y a certains Titiens qui font la même chose.
Voilà.
Pierre, ça continue.
Là, pour être un peu plus spécialisé dans les bordels que dans Picasso, donc si je puis me permettre.
Vous y allez avec un carnet de croquis ?
Non, je n'y vais pas avec un carré de croquis, mais c'est surtout que les bordels étaient des lieux beaucoup plus sociables que l'imaginaire qu'on en a aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était des lieux très ouverts, c'était des lieux où on pouvait regarder d'ailleurs les premiers films pornographiques qu'on payait pour à l'acte. On avait des jetons de bordel, vous savez, donc on échangeait sa monnaie contre des jetons qui étaient frappés aux armes de l'établissement qu'on fréquentait. On pouvait y boire, on pouvait y manger, on pouvait y emprunter des livres, il y avait une bibliothèque, il y avait tout un tas de choses possibles, de la musique. Donc, passer son temps à y peindre ou à croquer des filles, entre guillemets, au sens, alors là, sur le dessin, et non pas les croquer éventuellement plus avant, était parfaitement compréhensible à cette époque-là. Donc, près des Ramblas de Barcelone, absolument aucune incompatibilité.
Je voudrais revenir à
cette parenthèse.
Donc, cette grande vulve ouverte est peuplée par cette femme très belle, aux cheveux noirs, yeux noirs. Elle est nue, elle est levée, elle est couchée comme dans un lit, dans cette vulve, et elle écarte les jambes, et de sa main droite, elle passe sa main sous sa cuisse droite, et elle ouvre sa vulve à elle. C'est-à-dire qu'il y a là ce qu'on appelle, au sens deleuzien, un montrage, n'est-ce pas ? Et Picasso crée un fantasme, c'est évident que réalistement.
Et une mise en abîme.
Exactement. De ce maximum de son désir, cette pulsion scopique se réalise en quelque chose qui s'appelle une œuvre. Mmh. Et là, on a un exemple de sublimation extraordinaire et très précis.
Et alors, c'est une constante.
Vous arrivez à la fin. À la fin.
Je voudrais juste ajouter 1972. Quelque chose, interrompre deux minutes Jean-Jacques Lebel dans la description de cette œuvre. Voilà, exactement,
dessin.
Parce qu'il faut aussi voir que cette vulve est comme une mandorle, qui est dans l'art roman chrétien, inscrit le Christ. Donc c'est vraiment
dans la naissance.
D'un symbolisme. Il a vu évidemment tous ces Christs de l'art roman catalan lorsqu'il était autour de Barcelone. Et c'est quand même assez extraordinaire, parce qu'il y a quelque chose d'une dimension christique et symbolique dans cette femme qui s'inscrit dans une vulve mandorle.
Sauf
c'est quand même assez exceptionnel.
Cette conception est maculée et non pas immaculée.
Absolument.
Heureusement pour nous. Alors à la fin, on arrive à la fin, en 72, un an avant sa mort, on retrouve la même mandorle, la même vulve, largement ouverte. La femme est étendue sur le dos. Sa vulve est vraiment très invitante. C'est un lavis sombre, à couleur noire et très sombre. Le Hidalgo, le mousquetaire, est devant. Il contemple cela. Il sait qu'il va mourir. Il est vieux. Mais il a ancré dans son psychisme ce fantasme fondamental qu'on appellerait aujourd'hui l'origine du monde, par référence à Courbet. Mais dans sa jeunesse, il ne connaissait pas l'origine du monde. Il la connaissait après, il l'a connue après, à travers Lacan. Mais en 72, il la connaissait. Il la salue, et un des derniers merveilleux lavis, elle est là, comme sur un écran de cinéma, justement, géant, au fond, et le mousquetaire la salue, lui tourne le dos, et s'en va dans la nuit éternelle. Je veux dire que là, on a une espèce d'autobiographie mentale, pulsionnelle de Picasso, que je trouve d'un très haut niveau philosophique, et qui le ramène... contrairement à ce que pensent les gens un peu superficiels, vers la peinture matière grise.
Et s'il fallait
et sortir s'il fallait... de la peinture rétinienne dans laquelle on a voulu l'enfermer.
S'il fallait, alors vraiment d'un mot, Jean-Jacques Lebel, si vous pouvez résumer du coup cette traversée de la biographie picassienne avec ces deux tableaux érotiques, quel serait le mot qui finalement résume tout du rapport de sa jeunesse jusqu'à sa mort.
Vous me demandez l'impossible, mais je crois que là où il rejoint Duchamp et tous les grands artistes de son époque et des autres époques, c'est que le travail consiste à ce que le voyeur s'auto-transforme et devienne voyant. Le passage du voyeur au voyant.
Emmanuel Pierrat.
Non, c'était simplement que Jean-Jacques Lebel n'a pas dit le nom des œuvres, donc pour les auditeurs d'une radio, voilà, c'était environnement vaginal pour la première, et mousquetaire et femme nue pour le titre exact de la seconde, au cas où vous voudrez se référer à l'excellent toujours catalogue de Picasso érotique.
Oh, il est disponible encore ?
Non, je ne sais pas si...
J'ai vérifié, sur un site de libraire en ligne dont on dira le nom, il l'est encore, donc regardez-le pendant que vous nous écoutez.
C'est une bonne nouvelle.
Vous savez, j'ai rencontré l'amour. Il a des genoux écorchés et mendie de porte en porte.
Elle relève sa jupe, monte son derrière et saute en riant d'un bond par la fenêtre à travers les carreaux, en cassant toutes les vitres. Et youp,
Belle fille, intelligente, mais bizarre. Tout ça finira mal.
Appelant tous ces gens.
La tarte, présente tes comptes.
J'ai 600 litres de lait dans mes nichons de truie, du jambon, du gras double, du saucisson, des tripes, du boudin, et mes cheveux couverts de chipolata. J'ai des gencives mauves, du sucre dans les urines et du blanc d'œuf plein les mains nouées de gouttes, des cavernes osseuses, du fiel, des chancres, des fistules, des écrouelles, et des lèvres tordues de miel et de guimauve. Habillée avec des sens propres, je porte avec élégance les toilettes ridicules qu'on me donne, je suis mère et parfaite fille de joie, et je sais danser la rumba quand on a l'air dansant.
Tu auras un bidon de pétrole et une canne à pêche. Mais avant, tu dois danser avec nous tous. Commence avec gros pieds.
Viens, Nata.
La musique joue et tous dansent en changeant à chaque moment de cavalier et cavalière.
Alors ça, c'est l'adaptation du Désir attrapé par la queue, la pièce de Picasso, adaptation radiophonique qui date de 1966. Et cette pièce, qui a été écrite en 1941, c'est vous qui en détenez les droits, Jean-Jacques Lebel. Vous l'avez vous-même montée en 1967. Là, pour le coup, on est dans une écriture pulsionnelle, on est dans une écriture presque scatologique, un peu plus loin dans la pièce.
Oh, pourquoi presque ?
Oui, c'est vrai, pourquoi presque ? À un moment donné, le gros pied, donc le gros pied, c'est un personnage qui dit au bourron, le bourron est également un personnage. « Bel enfant, veux-tu que je te frotte ?» ou « L'angoisse maigre », c'est encore un personnage, dit « Je reprends encore de l'esturgeon âcre, saveur érotique de ces mets, tiens fortement en haleine mes goûts dépravés pour les plats épicés et crus. » Alors, les odeurs
fortes, les plats
épicés...
Vous avez choisi un passage extrêmement convenable.
Oui, c'est vrai, mais nous sommes à la radio, sur le service public de Radio France, et j'ai voulu... Peut-être que du coup vous interprétez ça comme une forme de censure, je ne sais
mais
pas.
Mais non, je vous taquine. Non.
Mais en tout cas,
le sens de l'humour.
Les odeurs fortes, les plats épicés, les odeurs corporelles, ça intéresse beaucoup Picasso, Dominique Dupuy-Labbé.
Absolument. Il y a une femme à la chemise pendant la période cubiste, où l'on voit le sein, les aisselles. Picasso disait qu'il voulait absolument que sa peinture sente, raison pour laquelle il y a souvent les nus avec effectivement la pilosité des aisselles. Ça, c'est absolument extraordinaire.
C'est alors, ce qui fait son charme.
Mais complètement, il est direct, il est cru.
Et dans la pièce, il y a une dame qui pisse pendant 10 minutes, sur scène.
Mais ça, c'est votre adaptation ou c'est dans...
Non, c'est dans le texte de Picasso,
ah, c'est
voyons.
Dans le texte de Picasso.
Elle pisse et repisse pendant 10 minutes sur scène. Et alors, on avait une actrice qui avait beaucoup de mal à faire ça. Alors, on avait mis un robinet d'eau pour l'inciter à continuer. Et d'ailleurs, Picasso était dans la salle, il était ravi. Il dit « Encore 9 minutes, encore 9 minutes !» Mais vous savez, on a beau rire, c'est une des constantes de son inspiration.
Oui, quelle est à peu près la
et
part,
vous
si
savez
vous
qu'il y a
de... Et puis, c'est le côté picard. Presque.
Oui.
Il a
dessiné beaucoup de femmes qui pissent.
Bien sûr.
Pas seulement le célèbre tableau, la femme qui pisse sur la plage qui appartenait à l'Iris et qui est maintenant au Centre Pompidou, mais des gravures, des dessins. Et il y a justement dans le carnet de 1966 trois dessins magnifiques où un homme qui regarde justement comme pour Duchamp par un trou de serrure ou par le trou d'une porte, une dame en train de faire pipi et une autre... dessin où à côté d'un bidet ou d'une toilette, une dame s'essuie le derrière et le jeune homme, est-ce que là c'est pas un vieillard barbu, c'est un jeune homme qui mate la pulsion scopique là est sublime.
Dominique Dupuy-Labbé, est-ce qu'on peut essayer de se rendre compte de la part dans l'œuvre totale de Picasso, de la part à caractère érotique, sexuel, est-ce que c'est vraiment très important?
Oui.
Voilà, alors à peu près comme ça.
Non, c'est vraiment très important parce que je dirais qu'il y a d'abord les œuvres qui sont évidemment sexuelles, érotiques, comme celles que nous avons montrées à Paris, Montréal et Barcelone, sans aucune équivoque possible. Et puis il y a toutes celles qui sont relatives au thème du cirque, au thème de la corrida, qui sont évidemment liées à l'érotisme, le cirque parce que nous avons des saltimbanques, on sait bien le texte de Ramon Gomez de la Serna qui parle de la sueur de ces gens du monde qui viennent voir les acrobates parce qu'elles sont à demi nues, donc le cirque
est les renifler
complètement. Il y a l'odeur des juments également, donc tout ça est très chargé en érotisme, même si ça n'apparaît pas toujours dans les œuvres. La corrida, bien sûr, il y a celle des années 20 et 30 avec l'éventration des chevaux qui sont comme des sexes béants, et là encore l'érotisme est sous-jacent. De même que l'on peut dire parfois aussi que dans les natures mortes, Picasso est présent dès lors qu'il y a des bouteilles extrêmement phalliques à côté de vases ou de verres qui sont largement ouverts. Il y a des métaphores sexuelles qui ne se lisent pas du premier regard, mais qui sont toujours là. Donc on peut dire effectivement que la part sexuelle et érotique de l'œuvre est très importante.
Emmanuel Pierrat, quel est votre tableau, sculpture, dessin préféré de Picasso dans ce domaine-là ?
Moi, je me souviens, alors c'est un ensemble de 6 dessins qui est aujourd'hui, je pense, au musée de Belfort, si je ne me trompe pas, parce que c'était chez Maurice Jardot que je les ai vus. Maurice Jardot était travaillé à la galerie Louise Deris, oui, anciennement Kahnweiler. Oui. Voilà, Kahnweiler. Donc, et j'arrive île Saint-Louis quand j'avais 20 ans à peu près pour m'occuper de questions de droit pour Maurice Jardot, qui est décédé aujourd'hui. Et il y avait un nombre d'œuvres absolument somptueuses absolument partout. Et derrière un grand panneau coulissant, ce que j'avais trouvé formidable, parce que l'effet justement de miroir, de masque, de censure fonctionnait à plein. À un moment, au bout d'une heure, m'ayant trouvé suffisamment aimable pour pouvoir me faire bénéficier de cette chose, il avait poussé ce grand panneau coulissant pour découvrir 6 dessins érotiques absolument splendides. Et pour moi, ça reste le moment de la révélation de la part, on va dire quasiment caché, je pense, malgré tout, de l'œuvre de Picasso.
Délibérément caché.
Oui, oui, caché par voilà. Qui ? Par Picasso lui-même ?
Parce qu'on dit que cette part est très importante, mais elle est restée quand même grandement, obscure, cachée. Il faut quand même se rendre compte de 2 choses. Si on le compare à tous les autres artistes du XXe siècle, c'est le plus grand artiste érotique, si on le prend par le prisme d'érotisme, en quantité, et surtout en outrance, c'est-à-dire d'après moi, si je mesure...
Duchamp est pas mal non
Duchamp
plus.
J'étais sûr que Jean-Jacques allait me rattraper sur Duchamp, en quantité, en tout cas, je pense que... Oui. De toute façon, il est imbattable sur plein de domaines. Mais pour le collectionneur que je suis, de livres érotiques, de dessins érotiques, de toiles ou d'objets érotiques, il n'y a pas photo, si je puis me permettre cette expression très...
Et pourquoi est-ce que vous pourriez dire pourquoi il n'y a pas photo? Est-ce que vous pourriez mettre un mot
c'est,
sur...
C'est exactement ce que disait Dominique Dupuy-Labbé, c'est aussi bien les œuvres suggestives, donc on va dire codées, à décrypter, que la quantité absolument phénoménale de dessins érotiques qui sont restés censurés et cachés. Il faut en plus se rendre compte de la violence, entre guillemets, pour certains spectateurs, parce qu'il y a à peine, on va dire ce printemps, une exposition à Novosibirsk de dessins érotiques a provoqué un scandale absolument énorme des dessins érotiques de Picasso. Il y a 3 ans ou 4 ans, 2008, à Salonique, ça a été, la ville était à feu et à sang parce qu'on montrait des dessins érotiques de Picasso. Donc, vous imaginez la charge subversive de ces dessins dans la société, on va dire, franco-espagnole ou européenne occidentale, il y a 40, 50, 60 ans. Si on imagine qu'aujourd'hui, c'est insupportable pour des populations habituées.
Aussi parce qu'il y a Dominique Dupuy-Labbé. Dans l'œuvre de Picasso cette alliance absolument incomparable de la peau, de la chair et du cerveau, et que deuxièmement, la charge érotique est telle qu'elle nous renvoie à nous-mêmes. Et c'est pour ça que ça scandalise, et pour ça que ça remue, que ça bouleverse. Parce que
la
transgression du contenu. Un autre chef-d'œuvre, La Crucifixion, un dessin du 21 août 1938 qui est au musée Picasso.
Il y a c'est une œuvre érotique, ça.
Absolument. Le Christ est crucifié, il bande, et une dame, une sainte probablement, est agenouillée devant lui arrache les testicules et pisse en même temps. N'est-ce pas? Et c'est un acte d'amour, c'est un acte d'érotisme digne de Georges Bataille. D'ailleurs, peut-être même directement inspiré d'un des personnages du Bleu du Ciel de Georges Bataille. Alors, évidemment, il n'y a pas que l'aspect érotique. C'est ce mélange explosif de l'érotisme, de l'irreligion, du paganisme et de la joie de vivre qui fait subversion. Pourquoi est-ce que ça fait subversion? vous parliez des scandales des dessins de Picasso, mais vous savez qu'on a eu un ministre de la Culture en France, particulièrement crétin, par Charité Chrétienne, je ne dirai pas son nom, il était interviewé par quelqu'un, un journaliste, qui lui demandait « Mais pourquoi est-ce qu'on va ouvrir un Louvre à Dubaï, alors que c'est la charia là-bas, on ne peut rien faire, on ne peut rien montrer, vous ne pourrez pas montrer, par exemple, la mort de Sardanapale, vous ne pourrez pas montrer de la croix, vous ne pourrez rien montrer. » Oui, en effet, répondit le ministre textuellement, nous montrerons de l'érotisme calme. Citation exacte. Érotisme calme. J'aurais voulu demander à ce sinistre crétin, en quoi est-ce qu'un l'érotisme peut être calme? Est-ce qu'il est encore érotique s'il est calme?
Emmanuel Pierrat, est-ce que vous pensez qu'il y a encore des tableaux encore plus crus et qu'on ne connaîtrait pas parce que soit la famille ne souhaiterait pas qu'on les sorte, soit, je ne sais pas, parce que Picasso lui-même n'aurait pas voulu les montrer?
Pas plus crus. Des tableaux ou des dessins qu'on ne connaît pas, certainement, parce que l'œuvre est tellement en nombre, je pense qu'il n'y a pas de catalogue raisonné possible. Il y a un catalogue raisonnable qui peut être tenté.
À peu près 36 à 40 000 œuvres, Picasso.
Oui, donc il y a forcément...
Le carnet du facteur cheval est pas mal. Voilà. Là, vous avez quand même un cheval qui saute, madame. Oui. Et sur l'arrière du cheval, il y a marqué PTT. Oui. Pour montrer que c'est le facteur cheval.
Juste pour dire que, effectivement, en œuvre encore mal, non connue, il y en a forcément. En degré, on va dire, d'outrance, dans le bon sens du terme, entendons-nous bien, Jean-Jacques Lebel, je ne vais pas me faire attaquer là. En degré d'outrance, je pense qu'on a à peu près fait le tour, entre guillemets, qu'on n'aura pas de surprise, je pense
non,
pas.
Je ne crois
dans les
pas.
Fantasmes, dans ce qui revient, dans les obsessions, dans les postures sexuelles ou les suggestions.
On peut dire que dans le degré d'outrance, c'est le tableau que nous avions choisi pour Paris, pour l'exposition Picasso érotique, celui qui restait caché dans les réserves du Metropolitan Museum of Art, où on voit un jeune Picasso en pleine fellation. Et ça, c'est quelque
1903,
chose... 1903. Oui, 1903. Donc, alors là, il se pose effectivement des questions sur l'attribution de l'œuvre, parce que est-ce un Picasso, est-ce un pastiche réalisé par ses amis, le montrant jeune garçon, effectivement, en train
au bordel,
au bordel, en train de se... La mine réjouit pendant cette fellation. On ne sait pas. Toujours est-il qu'effectivement, il n'a jamais été exposé aux États-Unis. Et lorsque nous l'avons demandé à Paris pour l'exposition Picasso érotique, pour les Américains, t'es quand même un peu choqué. Et autre exemple, avec Maïté Ocaña, j'étais allée emprunter au musée Ludwig,
de Barcelone.
Barcelone, mais même pour Paris, où j'étais la commissaire scientifique. Et vraiment, les Allemands n'ont pas voulu nous prêter des œuvres parce
Ils voulaient les garder pour eux.
Non, c'était parce que le sujet les choquait terriblement.
Et ça n'a pas beaucoup évolué.
Non. Et souvenez-vous, Jean-Jacques, du vivant de Picasso, lorsque les gravures les plus érotiques ont été présentées à Paris, c'était dans une pièce à l'écart où seuls les adultes pouvaient entrer pour voir les gravures érotiques.
Paul Rosenberg lui-même disait qu'il ne voulait pas de trou du cul dans sa galerie.
Oui, c'est à l'époque où il vivait dans le même immeuble rue Labo ici que Picasso. Et leur cuisine communiquait par une courette. Picasso était très amoureux de Marie-Thérèse et a peint un de ses merveilleux nus.
Le nu dans un jardin.
Et lui a dit, regarde ce que j'ai peint cette nuit. Il a dit, oh, quelle horreur, je ne veux pas de trou du cul dans ma galerie. Vous vous rendez compte? Voilà, ça veut dire qu'il y a vraiment de la censure, que le marché de l'art est sujet à ce genre de censure.
Non,
l'artiste n'a pas,
nuancé, Dominique,
n'a pas à se conformer à ce genre de loi.
Je nuance parce que je crois que la censure, avant d'être officielle, elle est d'abord personnelle.
Autocensure,
la réaction d'autocensure, je crois que la réaction de Paul Rosenberg, c'est de toute évidence une censure personnelle devant ce genre de
tableau.
Oui,
mais pas de la part de Picasso.
Non, je ne parle pas de Picasso.
Je parle du marchand. Donc c'est de la censure contre Picasso.
Mais ça n'est pas que Rosenberg.
Non, c'est pas tellement de la censure
contre.
C'est Rosenberg. Non, je dirais qu'à mon avis, c'est d'abord Paul Rosenberg, l'homme. Devant ce genre de... Ah, je ne parlerai certainement pas.
Mais alors, et le ministre de la Culture qui parle d'érotisme de...
À calme, ça, moi non plus, je suis comme vous, je ne sais pas ce que c'est que l'érotisme calme. Mais c'est intéressant, il aurait fallu rebondir sur cette question.
C'est inscrit dans c'est le 11e commandement.
Oui.
Tu ne désireras point.
De manière peut-être un petit peu plus replacée dans l'histoire de l'art, pardonnez-moi, en quoi est-ce que le... le regard de Picasso fait évoluer le regard qu'on peut porter sur les toiles, les dessins érotiques. Je veux dire, quelle est la place finalement de Picasso dans l'œil du spectateur vis-à-vis des dessins et tableaux érotiques, Dominique Dupuis-Labbé ou Emmanuel Pierrat, je ne sais pas.
Moi, je pense que la découverte de l'art érotique de Picasso a sans doute été un événement, parce qu'effectivement, peut montrer. Pourquoi peut montrer ? Parce qu'il est de l'ordre de l'intime, tout simplement, et qu'il met en jeu non seulement l'artiste lui-même, mais ses compagnes, ses amantes, ses deux femmes, et que par conséquent, effectivement, dans la plupart des cas, ce sont des œuvres qui sont restées dans sa collection, et des œuvres qui sont ensuite, pour la plupart, entrées au musée Picasso. Et de fait, il fallait vraiment un sujet tel que celui-ci pour en présenter un certain nombre et aller ensuite les chercher dans les collections privées, parce qu'il y en a évidemment beaucoup. Et je me souviens qu'à l'époque, quand je réunissais les œuvres, on a vu vraiment sortir des œuvres dans des ventes publiques et qui se sont très bien vendues par ailleurs. Et je pense que c'est un aspect de l'œuvre qui a certainement étonné, parce qu'on avait jusqu'à présent montré un Picasso convenable, entre guillemets. Alors là, on montrait l'homme derrière l'artiste. C'est ça qui m'a semblé intéressant dans Picasso érotique, c'est l'homme.
Et parmi les femmes de Picasso, il y a Marie-Thérèse Walter.
Eh bien, vous allez chez Picasso, donc oui. Il vous fait poser.
Oui, et puis il me charme.
Et puis, comment il a fait pour vous charmer ? Avec son art ?
Non, pas du tout, bah lui-même. Oh, pour son art, non. Oh, excusez.
Mais quand vous avez été chez lui, à Rue Labo ici, vous avez vu l'étoile de lui.
Je ne le regardais pas trop parce que j'étais très timide. Et je ne me permettais pas trop de regarder. Et puis alors, il y avait un tel fouillis. Vous savez, ce n'était qu'un fouillis chez lui, là-haut. Il y avait deux. Il y avait l'appartement, puis il y avait l'atelier au-dessus. Si, alors je commençais à voir. Vous savez, là où j'ai vu son cubisme, Pétadina, où je voyais toutes ces choses bleues.
Oui, c'est un peu plus tard.
Ah ben oui, c'est plus tard, mais c'est comme ça. Et alors, je voyais ces choses bleues. Ça me faisait un petit peu peur. Je ne me permettais pas de demander si c'était moi ou si c'était Olga, parce que j'étais timide. C'était pas que j'étais timide, j'étais réservée, sans plus. Je ne lui ai jamais fait la moindre des questions de rien du tout, vous savez. Mais rien.
Vous étiez soumise.
Mais non, pas soumise, j'étais gentille.
Vous étiez heureuse.
Mais j'étais même pas heureuse, j'étais à mon aise. Allons.
La voix sucrée et en même temps tellement naïve de Marie-Thérèse Walter dans cet extrait d'une interview de Pierre Cabanne, l'un des biographes de Picasso. Les auditeurs qui nous suivent depuis ce matin ont pu en écouter un extrait plus large, mais je voulais vous faire réagir quand même sur ce morceau d'interview où on entend quand même, et même elle le dit d'ailleurs Marie-Thérèse Walter, la soumission des femmes à Picasso, Emmanuel Pierrat.
Oui, mais c'est ce qui rend l'œuvre encore plus intéressante. Comme on le disait tout à l'heure en début de cette discussion, de ce débat, c'est que par ailleurs, on peut reconnaître ou identifier quasiment tous les modèles. Un peu de choses près.
Ah oui. Oui.
À la différence, c'est ce qui fait, ça s'explique aussi par le caractère volontairement caché de l'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses. Picasso fait une œuvre érotique, on va dire, qui n'est pas destinée à battre monnaie. Contrairement à beaucoup d'artistes du XXe siècle qui délibérément...
C'était pour lui.
Oui, c'était pour lui. Qui s'emparent de la sexualité pour pimenter en quelque sorte leur cote. Et pour répondre aux besoins du marché. Donc là, on est dans la démarche complètement inverse. C'est une œuvre vraiment personnelle et à usage personnel. Et ça se
justifie... C'est un journal intime, si tu veux.
C'est ça, c'est un journal intime, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc je pense. Et le journal intime est avec cette chose qui aurait été inadmissible chez d'autres artistes, le fait qu'on puisse reconnaître, si on avait exposé dans une galerie chez Paul Rosenberg ou ailleurs, effectivement, les dessins, les toiles, etc., concernés dont on parle, on aurait eu plus qu'un scandale, on aurait eu une interdiction immédiate, non pas uniquement en raison de ce qui était montré, c'est-à-dire la sexualité, mais en plus en raison de l'identification immédiate des modèles, malgré, on va dire,
D'ailleurs, c'est très étonnant qu'on dise période Françoise Gillot, période de Ramart, période
Marie-Thérèse
Walter. C'est le seul peintre.
Ce qui rend les choses passionnantes quand on regarde après, effectivement, la façon dont la succession a géré l'œuvre. Je pense qu'il y a une lecture, on va dire, possible, en plus du bazar, on va dire, dans lequel a été plongée la succession pendant quelques années, dans la façon dont elle instrumentalise ou se sert de l'œuvre de Picasso, qui est vraiment reliée.
Et qu'elle vend la signature comme une marchandise à une marque de voiture.
Mais le fait d'avoir maman, grand-maman, etc., qui est montrée à poil en pisseuse et ainsi de suite sur différents dessins qui sortent au fur et à mesure, il y en a des milliers des dessins qui sont révélés et montrés et sortis des collections, des réserves cachées, des enfers des musées, rend la chose encore plus séditieuse.
Et alors, par rapport à Egon Schiele, vous savez que Egon Schiele faisait la même chose, dessinait beaucoup ses compagnes, non seulement sa compagne, mais la sœur de sa compagne, et quelquefois ensemble nus dans un lit. Alors il avait, lui, trouvé cette parade, et il effaçait les visages. On reconnaissait ou on ne reconnaissait pas les corps, mais les visages étaient toujours stéréotypés. C'était toujours le même visage chez Egon Schiele. Tandis que qui lui aussi avait fait de la prison, d'ailleurs très jeune à cause d'une histoire de modèle, justement. Mais pour en revenir à Picasso, je crois qu'il avait besoin de dessiner cela. Ce n'était pas pour remplacer un acte sexuel, c'était pour fixer dans sa mémoire un désir, une pulsion, un amour, un peu comme certaines personnes éprouvent le besoin, qu'on peut approuver ou non, de prendre des photos. Aujourd'hui, avec l'iPhone, tout le monde prend des photos intimes des personnes qu'ils ou elles aiment. On peut approuver ça ou non, c'est pas la question. C'est une pulsion que tout le monde a de fixer dans une image quelque chose de l'objet aimé. Okay ? Picasso le faisait comme ça, c'est pour ça aussi peut-être pourquoi il n'a pas insisté pour que ce soit exposé. La seule fois, Dominique me corrigera si je me trompe, la seule fois de son vivant où ça a été bien exposé, c'est au Palais des Papes à Avignon, en 70 ou 71. Là, enfin, il a dit « voilà ce que j'ai fait ». Il s'en foutait du marché américain, parce que tout ce qu'il avait fait, c'était de cacher tout ça au marché américain, parce que le puritanisme américain aurait fait barrage à tout ça. Et il a dit finalement, je vais mourir, je montre mon art érotique et je les emmerde.
Emmanuel Pierre, voilà.
Emmanuel oui, Pierre, le côté je les emmerde avec l'érotisme, ça se traduit aussi par le fait que c'est le seul artiste de cette importance qui n'ait pas fait de testament. C'est-à-dire qu'il n'ait pas réglé sa succession, en quelque sorte.
Et même
s'il
aurait,
organisé joyeusement le bordel, voilà, en quelque sorte, ça. Volontairement, en disant, qu'ils se démerdent tous entre eux. Et de
ce
fait,
sera
ça n'a pas
pire
manqué.
Que ce que vous avez imaginé, aurait-il dit sur son lit de mort. En même temps, on a interrogé au cours de cette série un certain nombre de personnes, et parmi ces gens, des membres de la famille et de la succession de
la
Pablo
société.
Picasso.
De la Picasso administration.
Il faut quand même dire qu'il y a pas mal de gens qui ne tiennent pas du tout ce discours que vous tenez là. Donc il y a un peu deux côtés dans la famille.
Aujourd'hui, il y a un front uni, on va être clair, parce que aujourd'hui la famille a besoin
totalement.
De gérer les choses de façon
rationnelle.
Oui. Voilà. Cela dit, au moment du travail sur l'exposition Picasso érotique à Paris, où j'avais rencontré tous les membres de la famille Picasso, il n'y a eu aucune censure de la part de la famille. Parce que cette exposition n'aurait pas pu être faite non plus sans eux, parce qu'ils ont considérablement prêté. Maya, Bernard, Claude, Paloma ont tous prêté à cette exposition Picasso érotique. Ça vraiment, même Maya apportant des dessins que nous ne connaissions pas. Donc il y avait vraiment aussi une collaboration très étroite avec la famille Picasso, mais je crois aussi que ça tient au fait qu'ils avaient parfaitement compris que, même si le thème du voyeurisme est très présent dans la fin de l'œuvre de Picasso, il ne s'agissait pas non plus de faire une exposition de voyeur, mais aussi d'historien d'art, c'est-à-dire de montrer justement quelle était la place de l'érotisme dans l'œuvre de Picasso et de ne pas faire une sous-exposition attirant les fous. Il y avait un vrai propos scientifique derrière. C'est ça aussi qui les a convaincus de participer et de collaborer très, très naturellement.
Dominique, ce que vous parliez de ne pas vouloir
Jean-Jacques Lebel.
Contenir tout ça dans une vision simpliste du voyeur. Et moi, ce qui m'intéresse, je crois qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est ça l'essentiel dont toute l'œuvre de Picasso et toute l'œuvre de Duchamp, c'est justement, j'y reviens, le passage du voyeur au voyant. C'est-à-dire, à partir du moment où se constitue le travail du regard, qui est un travail sans fin, qui dure toute la vie, pas seulement devant un dessin ou une œuvre, mais toute la vie. Comme John Cage disait, « New music, new listening », il n'y a pas de nouvelle peinture s'il n'y a pas de nouveaux regardeurs. Alors, Picasso nous a entraînés, c'est là où nous avons tous une dette envers lui, comme envers Duchamp, il nous a aidés à constituer un regard critique, un regard désirant, un regard qui fait rhizome, c'est-à-dire qui continue après la peinture, qui continue après le dessin, et qui, dans nos propres visions, continue à produire des œuvres.
Et alors, vous qui avez bien connu Duchamp, et un petit peu Picasso aussi, je crois, Jean-Jacques Lebel, qu'est-ce que Duchamp disait de Picasso? Parce qu'on a tendance, effectivement, à les opposer systématiquement.
C'est-à-dire qu'il considérait, lui aussi, que Picasso, c'était un peu trop compu dans son rôle de fabricant de papier peint pour les salons bourgeois américains, n'est-ce pas ? Il lui reprochait, évidemment, comme tout le monde, son philo-stalinisme un peu médiocre, même très médiocre, mais il avait envers son œuvre d'inspiration érotique une grande estime. Une grande estime. Et lui reprochait, ou lui aurait peut-être reproché, de pas souvent la montrer, cette œuvre-là. Et il se sentait complice, très complice, de justement les demoiselles d'Avignon, ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui se passait derrière les rideaux, et ce regard, par exemple, dans la série Fornarina, n'est-ce pas, ce monsieur qui se planque sous le matelas, ou qui se planque derrière le rideau. On pourrait dire, est-ce que c'est Picasso qui mate Madame avec Nounours? J'en sais rien. Tous les fantasmes sont bons ou sont mauvais. On n'en sait rien, c'est du cinéma, tout ça. Chacun se fabrique son scénario. En tout cas, ça fait marcher l'intelligence, ça fait marcher l'histoire de l'art, car l'histoire de l'art n'est jamais une chose figée, n'est jamais une chose académique, n'est jamais une chose morte. On la refait sans cesse, et c'est à ça que Picasso nous incite.
Dominique Dupuy-Labbé.
Oui, je voulais, en écoutant Jean-Jacques Lebel évoquer la Fornarina, évoquer aussi la dimension humoristique
Absolument.
De l'érotisme picassien. Mmh. Parce que c'est quand même très savoureux et très drôle. Raphaël et la Fornarina, c'est une des séries d'ailleurs inspirées par les estampes japonaises, comme l'a montré récemment une exposition au Musée Picasso de Barcelone, qui est absolument désopilante. Et je peux vous dire qu'à Paris, au Jeu de Paume, ceux qui la regardaient, ou celle plutôt qui la regardait avec le plus d'attention, c'était des vieilles dames avec des loupes et les enfants qui s'amusaient comme des fous devant ces gravures. Et vous citiez tout à l'heure le facteur cheval, c'est très drôle. Il y a une dimension de picaresque, de l'érotisme
presque,
oui. dans Picasso qu'il ne faut absolument pas oublier.
Très juste.
Alors,
qui vient de Gongora et de Quevedo, n'est-ce
oui,
pas
absolument.
L'Ojo del culo de oui. Quevedo.
Outre l'humour, ce qui est intéressant aussi chez Picasso, c'est effectivement qu'il y a plusieurs types de dessins, plusieurs types de peintures érotiques. Il y a parfois de la tendresse, parfois du voyeurisme, on en a parlé. Ce qui ressort le plus, c'est peut-être, vous allez me dire si je me trompe, une volonté de domination. Et je voudrais en contrepoint qu'on entende une autre femme de Picasso, Françoise Gillot, évoquer l'emprise qu'il pouvait avoir sur elle.
J'ai donc rencontré de Staël. Et nous avons au début parlé, et au fond, nos idées sur la peinture à cette époque-là étaient assez proches, donc tout semblait aller pour le mieux. Et puis à un moment donné, il m'a dit « Oui, mais on m'a dit que vous allez de temps en temps le matin voir Picasso à son atelier ». J'ai dit « Oui, c'est exact ». Justement, je pensais que je ne pouvais qu'apprendre en allant chez lui et que c'était même un grand privilège de pouvoir le faire. Et alors, il m'a répondu « Oui, mais si vous allez chez Picasso, vous serez complètement détruite. C'est quelque chose qui va vous détruire complètement et je ne peux pas avoir dans mon groupe quelqu'un qui est si proche de Picasso. » Alors j'ai dit, mais je ne comprends pas du tout puisque vous-même, vous allez bien chez Braque tous les matins. Alors il n'a pas été très content de cette réflexion parce qu'il était déjà très chef de file, tout en ayant simplement 10 ans de plus que nous. Oui. Et il a dit, mais ce n'est pas du tout la même chose parce que justement, Braque est un homme, si vous voulez, qui est extrêmement objectif et qui ne nous prend en main que sur un plan strictement pictural et qui n'essaye pas de changer nos personnalités. Bien, je crois qu'il avait dans une certaine mesure raison, puisqu'il pensait que ce que Picasso voulait, c'était essentiellement transformer un être. n'est-ce pas? Et pas seulement donner des conseils à un jeune peintre. Et dans un certain sens, il a peut-être eu raison, et dans un autre sens, je pense qu'il y a aussi une alchimie qui s'est produite de cette manière, qui ne pouvait se produire d'aucune autre manière.
Transformer un être, Dominique Dupuis-Labbé.
Non, je ne crois pas qu'il transforme un être, il sublime un être. Il trouve chez lui ce qu'il y a de mieux à exposer pour son propre plaisir et le sien. Ça, c'est une certitude. D'où cette exploration obsessionnelle, obsédante des corps dès le début de sa carrière, quand il est encore tout jeune homme et qu'il fréquente effectivement les bordels de Barcelone. On parlait tout à l'heure des rapports de domination. Oui, certainement. De toute façon, quand on voit Picasso, quand on voit ce regard, et Jean-Jacques Lebel parlait du regard, n'oublions pas que c'est un Andalou qui vient d'une culture très particulière où le premier contact sexuel dans cette fin 19e siècle s'établissait par le regard. On détourne le regard si on ne veut pas entrer dans une relation, on le soutient si on a envie qu'elle se prolonge. Donc ça, c'est vraiment dans l'Espagne du 19e siècle quelque chose qui est extrêmement codifié, le jeu des regards entre un homme et une femme. Et il va poursuivre sur cette culture, effectivement. Alors, quant à dire qu'il domine, oui, peut-être il est dominant, mais moi, j'ai tendance aussi à prétendre parfois que les dominés ont bien envie d'être dominés aussi.
Il rencontre des soumises.
Oui, exactement. Oui. Et puis des soumises qui le font volontairement, parce qu'elles ne le sont pas toujours. Dora Maar n'est pas toujours soumise, François Gillot... certainement la moins soumise de toutes, Geneviève Laporte pas davantage, Jacqueline non plus. Donc il y a un jeu de la soumission et la domination, une alternance entre le dominé et le dominant. On parlait tout à l'heure, et vous l'avez évoqué, du minotaure. Le minotaure peut effectivement être dominant, mais il y a des minotaures blessés, il y a des minotaures mourants dans l'arène, il y a des minotaures caressant du mufle, une dormeuse.
Le minotaure est une victime, tendre. Selon...
Une victime consentante de l'amour qui peut parfois effectivement violer ou dominer la femme qu'il croise.
Oui. Emmanuel Pierra.
Oui, elles sont volontaires à la soumission, quand même, pour être clair. Je parle des femmes de Picasso. Hein. Donc, alors après, il y a évidemment tout le discours qui surgit une fois qu'elles sont, une fois la rupture, une fois qu'elles ont été délaissées.
C'est là que vous intervenez en général.
Ah oui, normalement, c'est là c'est mon boulot, en théorie. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement le ressentiment très fort qui se manifeste dans tous les écrits. On entend là, c'est des voix très posées en interview radiophonique. Mais quand on lit Le Vivre avec Picasso de François Gillot,
qu'on vient d'écouter,
qui a provoqué d'ailleurs des procès, c'est une violence ahurissante. C'est vraiment la vengeance des femmes qui se sont volontairement soumises et la soumission, en gros, n'a servi à rien.
Et puis la vengeance terrible.
Si, à les faire jouir.
À les faire jouir, oui, mais je veux
mais
dire.
C'est la
là
vengeance
sont...
de la perte aussi. Oui, la vengeance de la perte d'un homme exceptionnel.
Non, mais c'est je me suis soumise, j'ai accepté d'être soumise, et malgré ça, il m'a quittée.
Et Dora Maar disant. Et Dora Maar disant, après Picasso, il n'y a que Dieu.
Oui.
Oui.
Ah non, elles sont
l'inverse.
Ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont toutes restées, on va dire,
voilà.
N'oublions pas que le
pas
maître est l'esclave de l'esclave.
Bien sûr.
Est-ce que dans cette idée de la domination, est-ce qu'il n'y a pas aussi la domination des autres peintres? Est-ce qu'il n'y a pas cette idée que...
ah oui, là, ils dominent carrément.
On doit être...
Il les écrase.
C'est ça, mais il y a une volonté quand même très consciente.
Oui, ludique. C'est comme les matchs de foot. Hein. Matisse, Braque, tout ça. Quand il prend l'uniforme de l'armée française de Braque et qu'il le porte et qu'il a cette fameuse photo, il se regarde en chien de faïence.
Puis cette remarque terrible après le cubisme disant Braque, c'était ma femme.
Oui. Oui. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a un jeu de domination, un peu comme les lutteurs, si vous voulez, qui est carrément sexuel, d'ailleurs, aussi, qui est sexualisé, en tout cas. Et oui, mais il y a ça dans toutes les activités humaines, pas seulement chez les peintres.
Hein. Emmanuel Pierre,
regardez
que vous en
chez les politiciens ce que ça donne.
Oui. Ses amis sont écrivains, poètes, mais il n'y a pas d'amis peintres, il n'y a pas d'amitié. La seule, c'est Matisse, parce que c'est un géant...
Et malgré tout, quand on regarde les correspondances des uns et des autres, juste si on prend, je sais pas quoi, le primitivisme dans l'art moderne, comme on dit. Donc, qui le premier est allé au musée de l'homme montrer ou découvrir ou de regarder tel...
Derain, probablement.
Voilà. Non, mais ce qui est amusant, c'est de relire les correspondances qui s'envoient, etc. La course j'étais le premier.
Et ouais, c'est pas ouais, toi ouais. Et c'est moi qui t'ai emmené. Ça fait... ouais. Il y a une domination, une volonté de domination dans tout, ou de rivalité, mais qui marche dans les deux sens, hein, avec ouais. Matisse, etc. Donc après, ça peut s'appliquer à n'importe qui, si je puis me permettre. Chez Picasso, ce qui est juste intéressant après, c'est... enfin, intéressant. Ce qui est intéressant, c'est, oui, le Minotaure, sur lequel on est passé un peu vite.
Ouais. Oui, voilà. on peut redire un mot sur le Minotaure.
Non, sur le Minotaure, puisque Jean-Jacques Lebel disait rhizome. Donc, une forme du labyrinthe. Donc on peut reprendre ou filer un peu la métaphore sur ça.
Peut-être rappeler que le Minotaure, c'est la manière dont Picasso se représente.
Oui.
À partir de quel moment et jusqu'à quel moment?
Au moment de la première couverture pour la revue de ce qui ira Minotaure.
De ce qui devient le Minotaure.
Alors pourquoi
Non, c'est très intéressant.
C'est le taureau qui avec Adora. Il se figure lui-même en tant que taureau.
C'est le Minotaure, il est
Dora qu'il adore.
Et puis très très viril, parce que vous parliez de la virilité tout à l'heure. Bon, les premiers essais pour la couverture de la revue Minotaure, c'est le Minotaure assis qui tient un couteau très judicieusement placé entre ses jambes.
Le Minotaure, il est enfermé dans le labyrinthe. Il en est pas nécessairement le maître. Il est enfermé au centre l'arène de corrida et son destin est de mourir. Hein. Donc,
oui, mais ce qui est intéressant dans Minotaure Picassia, c'est qu'il s'échappe du labyrinthe. Justement, il court les champs, les vales, les plaines pour violer des jeunes femmes consentantes.
Il le fait sortir du labyrinthe, on est d'accord.
Complètement, alors que le Minotaure, c'est une créature mythique à laquelle on apporte en tribut cette jeune gens et cette jeune femme venue d'Athènes, puisqu'il est le fils monstrueux des amours de Pasiphae, l'épouse du roi Minos, avec un taureau blanc sorti de l'océan. Donc on le cache, c'est un monstre. Le problème, c'est que dans l'œuvre de Picasso, Thésée, le héros, on peut supposer qu'il gît dans le labyrinthe et que c'est le Minotaure qui va courir partout. Et effectivement, il prend possession de l'espace et des femmes qu'il rencontre jusqu'à aller dans l'arène et à confondre à ce moment-là le thème du Minotaure et la corrida.
C'est très très intéressant ce que vous dites, parce que quand il s'approprie un mythe, il le transforme de A à Z. Et c'est le propre des artistes, quand ils s'approprient une image de la croix ou de Manet ou de quiconque, ils transforment tout, ou de Titien, ils transforment toujours. C'est jamais du réalisme.
Et la pulsion d'amour, en un mot, et pour terminer avec une forme de
happy end. C'est intéressant. Je crois qu'on pourrait dire qu'il y a un regard amoureux. Ouais. Que Picasso pose sur l'œuvre de certaines des peintres qu'il admire. Pas seulement Degas, mais aussi Matisse, aussi Braque, et aussi probablement Duchamp. Il y a un regard amoureux qu'il pose sur ses collègues, un regard qui dure au-delà de la mort, finalement.
Oui, puis il y a aussi un regard amoureux sur les femmes. Il était amoureux de ces femmes. Oui. Il était amoureux.
Eh bien voilà, un mot de la fin formidable. Merci beaucoup à vous trois. Jean-Jacques Lebel, je rappelle votre dernier livre paru aux éditions Bifure, qui est un dialogue avec l'artiste autrichien Arnulf Reiner. Dominique Dupuis-Labbé, votre dernier ouvrage paru sur Picasso, concernait les Demoiselles d'Avignon. Il est toujours disponible chez Bartilla. Et enfin, Emmanuel Pierra, parmi les très nombreux livres de vous parus récemment, citons en ce qui concerne Picasso, Famille, je vous hais, livre sur les rapports entre les auteurs et leurs héritiers, c'est chez Hubuck.
No!